Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Olivier Cadic, sénateur représentant les Français établis hors de France, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, président du groupe d'amitié France-Pays du Golfe. Bonsoir.
Bonsoir.
Olivier Cadic, la Coupe du Monde de football passionne les Français, une compétition qui a réservé bien des surprises, notamment les performances des Lions de l'Atlas qui rencontrent les Bleus ce mercredi soir. Le Maroc est le premier pays arabe et africain à atteindre la demi-finale d'un mondial. Avant le début de la compétition, on se rappelle qu'il y a eu beaucoup de critiques contre le Qatar. Maintenant qu'on est à quelques jours de la finale de dimanche 18 décembre. Les commentaires concernent plutôt les chances de qualification des dernières équipes en lice. Vous vous êtes rendu au Qatar et vous qui présidez le groupe d'amitié France-Pays du Golfe, comment jugez-vous l'organisation de cette compétition par cet état du golfe ?
Eh bien écoutez, pour moi, de mon point de vue et mon observation, c'est une réussite au niveau de l'organisation. Le Qatar est un pays jeune qui s'est lancé un défi avec la volonté d'organiser cet événement qui est certainement le plus grand au niveau sportif après les Jeux Olympiques. Mon observation en étant allé sur place, puisque j'ai suivi les questions de sécurité, je suis allé donc voir nos forces qui sont venues en appui pour la sécurité de la Coupe du Monde. Donc j'ai trouvé qu'ils avaient réussi cette coordination de forces qui pouvaient venir de différents pays pour justement assurer la sécurité de la compétition. Les stades, j'en ai vu deux, ils sont d'une qualité incroyable, ils sont neufs mais ils sont modernes. Et donc effectivement, je pense que tout le monde a pu découvrir qu'ils ont fait 8 stades, mais 8 stades qui avaient chacun leur identité, et donc qui montrent justement leur degré d'ingéniosité. Et enfin, j'ai trouvé qu'ils avaient été pragmatiques. Ils ont su adapter leurs règles, leur législation, afin d'être accueillants et ouverts à tous. Donc je crois que leur volonté, c'était de faire cette Coupe du Monde une fête. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est réussi. Donc on ne peut que le saluer.
Olivier Cadic, le président chinois a passé 3 jours en Arabie Saoudite. Il a participé à un sommet avec les États du Golfe, puis il a assisté à un autre sommet avec des leaders du monde arabe. Est-ce qu'aujourd'hui la Chine est un acteur incontournable dans le monde arabe? Et est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour la France et les Européens?
Vous savez, la Chine qui se présente comme un pays en voie de développement est en fait un pays qui conteste le modèle démocratique et qui considère que son modèle dictatorial, appuyé sur le concept de parti unique, le parti communiste chinois, serait plus favorable au développement des pays. Donc ils vont voir tous les pays en disant surtout n'allez pas vers un modèle démocratique, le modèle occidental n'est pas le bon. Et donc nous, on s'occupe de venir conforter le développement de tous les pays avec notre modèle. En fait, le développement de la Corée du Sud et de Taïwan, qui sont juste à proximité de la Chine, démontre tout à fait l'inverse. Justement, le bon modèle pour le développement, c'est le fait que les êtres humains aient la possibilité de dire ce qu'ils pensent, d'exprimer leur opinion et d'être inventifs, d'innover ensemble. Donc, c'est un modèle différent qui est préconisé. Donc, la politique des routes de la soie de la Chine, on l'a vu, mettre des pays sous la coupe de Pékin, les rend exsangues. Je crois que les dirigeants des pays du Golfe n'ont pas de problèmes financiers, donc je ne pense pas qu'ils soient susceptibles d'accepter de leur propre chef de se mettre sous la coupe de Pékin. Les pays du Golfe défendent les intérêts, les gouvernants donc des pays du Golfe défendent les intérêts de leurs pays respectifs, et la Chine a plus besoin de leur pétrole et du gaz qu'ils n'ont eux besoin de la Chine. moi, il me paraît tout à fait normal qu'ils reçoivent leurs clients avec les égards, puisque de toute façon, les pays du Golfe aussi, j'ai pu en faire l'expérience, sont, je pense, les leaders en capacité de d'accueillir des visiteurs. Je crois qu'en termes de souvent d'accueil des invités, je crois qu'on a du mal à rivaliser avec eux, avec leur savoir-faire. Moi, je me suis rendu en Arabie Saoudite en début d'année avec une délégation de 9 sénateurs. On y a tous découvert leurs projets, les projets de la vision 2030 du prince héritier, Mohamed Ben Salman. On a vu Diriyah, on a vu Qiliyah, nous sommes allés à Aloula, on a vu le développement du projet Neom. Et à chaque fois, on a vu que des entreprises françaises étaient impliquées. Notre savoir-faire est reconnu par les Saoudiens. L'Arabie Saoudite, comme les pays du Golfe en général, veulent toujours le meilleur. Ils savent que acheter soi-disant pas cher, ça peut coûter très cher à la fin, et c'est pas souvent le meilleur. Et donc, comme les pays du Golfe veulent le meilleur, je pense que la France, les entreprises françaises sont quand même toujours assez bien placées, plutôt très bien. Et ce qui fait que moi, en ce qui me concerne, je suis tout à fait confiant et j'ai pas de crainte par rapport à cette visite.
Alors, Olivier Cadic, j'aimerais qu'on évoque la question des visas au Maghreb. Ils ont été réduits par la France pour inciter ces pays à délivrer des laissez-passer consulaires à leurs ressortissants qui font l'objet d'une obligation à quitter le territoire. Est-ce que la France va assouplir sa politique en matière de visas ?
À titre personnel, je l'espère. Dans la décision qui a été prise à l'époque, par notre gouvernement, il y a des avantages et des inconvénients par rapport à cette décision. À l'époque, le gouvernement français souhaitait être respecté. Je crois que c'était important. Il y avait quand même des gens qui avaient commis des délits sur notre sol, des nationaux, et que les pays ne voulaient pas récupérer. Vous comprendrez que c'était pas tellement acceptable pour nous. Donc le gouvernement l'a signifié, et d'autant plus que comme on rentrait dans une période électorale où les extrêmes s'agitaient, si le gouvernement n'avait rien fait, il aurait été contesté comme ayant une politique laxiste. Donc je pense qu'il a voulu avoir une politique équilibrée en disant, écoutez, puisque vous faites du blocage, et bien nous aussi on fait du blocage. Ceci étant, faut faire le bilan aujourd'hui de cette situation. Je crois que il faut pas prendre en otage des citoyens qui souffrent injustement de cette décision. Et je pense à des Marocains, des Algériens, des Tunisiens que je connais ou j'ai pu être amené à connaître, qui ont de la famille en France, qu'ils ont besoin de voir, qui ont besoin parfois, qui ont envie de poursuivre un traitement qui a été commencé en France. Tous ces gens-là ne doivent pas se retrouver otages de cette situation. Et donc, j'espère que effectivement le gouvernement prendra en compte cette nouvelle réalité et donc assouplira à nouveau sa décision.
Alors, vous avez été alerté sur la préemption des rendez-vous pour des visas par des personnes qui les revendent. Les consulats de France ont-ils les moyens de lutter contre ces trafics qui gênent considérablement les ressortissants, notamment des pays du Maghreb, qui veulent venir en France ?
Ah oui, ça c'est clairement un système que j'ai dénoncé très vite avec nos élus consulaires des Français de l'étranger au Maroc, en Algérie, qui là sur ces deux territoires en particulier m'ont très vite alerté de ce que certains avaient construit. La nature a horreur du vide, donc quand on sous-traite à des structures externes, donc un processus, il est possible que s'il y a une difficulté, il y a un engorgement sur les demandes de visa, et bien que certains commencent à négocier la place dans la queue. Alors ça existe, on le voit sur les systèmes, parce que les prises de rendez-vous en ligne se font, mais faut pas se leurrer, quand les gens aussi faisaient la queue devant les consulats pour faire des demandes de visa, je me souviens aussi qu'à l'époque, il y avait des gens qui étaient payés pour faire la queue, et puis une personne arrivait juste avant le moment de rentrer pour prendre sa place. Donc, il faut se donner les moyens de lutter contre ces trafics. Je sais que nos services s'en occupent, que c'est une vraie préoccupation. Maintenant, bon, on pourra faire le bilan pour voir si ça a pu évoluer. Je sais qu'ils sont vraiment sur le sujet parce que on les a mobilisés et ils comprennent que c'est pas une belle image pour nous si on laisse ces trafics perdurer.
Olivier Cadic, le Liban connaît la pire crise de son histoire, un pays qui est sans président de la République depuis la fin du mandat du président Aoun. C'est un sujet de grande préoccupation pour vous, pour le Sénat, pour la France en général ?
Ah ben clairement, hein. Vis-à-vis du Liban et du peuple libanais, le Sénat français a un groupe d'amitié qui est important. Penser à notre présidente du groupe d'amitié, sénatrice Lavarde, qui anime ce groupe d'amitié avec beaucoup d'activité. Et donc en ce qui me concerne, ce sujet, c'est la première des choses, c'est penser à toutes les souffrances endurées par le peuple libanais. C'est quand on voit, quand on entend les témoignages des gens qui n'ont plus d'électricité, qui n'arrivent plus à avoir de médicaments. Je connais quelqu'un qui m'avait conduit au Liban, qui est décédé parce qu'il n'a pas pu avoir son traitement. Je pense à eux, je pense à toutes ces personnes-là. Maintenant, il n'y a pas de problème sans solution. Et je crois que la question à laquelle doivent répondre les Libanais, c'est quel Liban veulent les Libanais. La priorité, c'est pas de savoir qui va être le président de la République, c'est comment est-ce qu'ils veulent vivre ensemble. Quel va être le système qui va sortir de tout ce chaos. Et donc, pour ma part, moi, je me rendrai à Beyrouth le mois prochain. Mon objectif, c'est de les écouter. C'est quel Liban veulent-ils ? Parce qu'on voit bien que là, pour l'instant, le système est totalement bloqué et qu'il évolue dans une direction qui est un Liban qui risque de perdre, une partie de sa communauté et qui ferait que le Liban ne serait plus le Liban qu'on a connu. Et donc, ça, on a besoin. Moi, j'ai besoin d'écouter les gens sur place pour voir comment ils analysent la situation maintenant. Mais ce qu'ils vivent est vraiment, c'est le chaos. Maintenant, on voit bien qu'ils arrivent aussi à trouver certaines solutions. Mais je pense pas que ce soit qu'on puisse retrouver le Liban tel qu'on l'a connu et tel qu'il nous a fait rêver, tel qu'on l'a aimé. Et donc, maintenant, il faut se remonter les manches et puis voir tout ce qu'on peut faire pour les aider.
L'une des solutions pour le Liban, c'est le respect de l'état de droit, l'aide aussi aux institutions, notamment l'armée.
C'est clair, mais depuis le début, hein, moi je me suis, j'ai expliqué qu'on ne pouvait pas vivre avec deux armées hein, dans un pays. Donc il doit y avoir qu'une seule armée. Il doit y avoir un système qui repose effectivement sur l'état de droit. Ça, c'est ma conviction. C'est peut-être pas la conviction de la Chine, puisqu'on avait commencé avec eux. Moi, je pense qu'effectivement, ça passe par là, ça passe par la liberté d'expression, ça passe par la démocratie, ça passe par respecter des règles et donc lutter contre la corruption. Et voilà, donc on sait très bien que si on n'arrive pas à remettre de l'ordre, ce sera très très difficile. Mais encore une fois, ce sont les Libanais qui ont leur destin entre les mains et ils doivent aussi analyser la situation parce que si on en est là, il y a aussi un certain nombre de raisons. Donc il faut vraiment que chacun fasse le point et savoir dans quel monde veulent-ils vivre, dans quel Liban veulent-ils vivre. C'est eux qui peuvent le déterminer, personne d'autre à leur place. Et encore une fois, je vous dis, moi, j'ai pas de leçon à donner, uniquement à me mettre à disposition. Si je peux être utile, eh ben, je ferai tout ce que je peux pour les aider à avancer.
Olivier Cadic, vous êtes président de l'Association nationale des écoles françaises à l'étranger. De quelle manière la France contribue-t-elle à ce réseau d'écoles, notamment dans le monde arabe ?
La France a créé une agence pour l'enseignement français à l'étranger en 1990 pour rassembler sous une même tutelle les écoles qui dépendaient parfois du ministère de l'Éducation nationale ou du ministère de la Coopération et certaines du ministère des Affaires étrangères. Donc tout ça s'est concentré sous forme d'un réseau. Et donc, tant par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger que par la mission laïque française, se sont constitués des réseaux d'écoles françaises à l'étranger qui se sont développés pour certaines, évidemment, au Maghreb, dans les pays arabes. Et donc, le gouvernement français finance ce réseau par un budget de plus de 400 millions d'euros chaque année. Donc, participe au financement. Ça, c'est pour modérer les frais de scolarité dans les écoles françaises à l'étranger. Le gouvernement français a par exemple fait un effort particulier au Liban pour aider justement les écoles françaises ou francophones du Liban, pour les aider à surmonter la crise à laquelle elles sont confrontées. Donc voilà, c'est une aide financière directe qui est faite pour justement modérer ces frais de scolarité.
Merci Olivier Cadic. Je rappelle que vous êtes sénateur représentant les Français établis hors de France, vice-président de la Commission des Affaires étrangères et président du groupe d'amitié France-Pays du Golfe. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.